Les femmes ont une sexualité de service et elles ne le savent pas. Je suis Ellie, experte du prix du sexe. Bienvenue dans le podcast Cœur de Michto, la référence féministe sur l'égalité dans les relations amoureuses. Je partage le regard surprenant que la prostitution m'a donné sur l'hétérosexualité, mais aussi les leçons incroyables qu'elle m'a enseignées pour hacker le patriarcat. Si tu es prête à pimper ta vie amoureuse, on y va. Bienvenue dans Cœur de Michto. Étant moi-même concernée par le sens de la formule un peu punchy, j'aime bien quand je tombe sur des gens qui ont un peu ce même sens-là, et c'est ce qui s'est passé quand je suis tombée sur ce bouquin, au titre tout aussi provoque que Cœur de Michto. Le titre du bouquin, c'est « Pute n'est pas un projet d'avenir ». Quand j'ai vu le titre, je fais « Waouh, je veux ce livre ». En fait, c'est un bouquin écrit par une nana qui a été prostituée pendant quelques années et qui parle de son expérience. Donc je me suis dit « Bon, je me suis dit, est-ce que je vais apprendre quelque chose ?» Et puis en feuilletant quelques lignes, je me dis quand même, elle écrit bien cette nana, c'est vraiment drôle, c'est vraiment marrant, c'est vraiment piquant. Bon, bah il me faut ce bouquin. Je l'embarque et je commence à lire. Et premier truc qui est un peu marrant, c'est que il y a plein d'indices dans ce bouquin qui me font dire que c'est une personne qui a exercé au même moment que moi. On a connu les mêmes conditions de taf. Plein de petits indices que je ne divulguerai pas pour préserver les ma vie et la sienne. Mais bref, du coup, c'était rigolo parce qu'après, je suis repassée sur la confrérie des putes en disant est-ce que quelqu'un sait qui a écrit ce bouquin? Est-ce qu'elle est ici? Donc après avoir lu ce bouquin que j'ai trouvé vraiment chouette, je me suis dit, il est vraiment trop cool pour que je garde ça pour moi. Donc j'ai décidé de faire gagner le bouquin lors d'un concours. Donc le concours a eu lieu, il a été gagné. Et donc du coup, bah j'ai, comme d'habitude, hein, quand il y a un truc que j'aime bien et qui correspond à mes sujets de recherche, bah je vais écrire dans les marges, faire des notes, des commentaires. Et donc la personne a gagné ce bouquin avec mes notes à moi. Je trouvais ça rigolo. Et donc du coup je me suis dit, bon bah j'ai plus qu'à faire un épisode avec, hein. Je vais faire une petite review de ce bouquin, Pute n'est pas un projet d'avenir, de Louise Grasset, pardon, de Louise Brévin aux éditions Grasset, lapsus. On va commencer par le résumé, hein. Aujourd'hui, devenir pute est encore plus facile que de créer un compte Instagram. Notre ère 2.0 a déplacé le tapin de la place publique à l'intimité de nos smartphones et les hommes peuvent désormais se commander une fille aussi facilement qu'on commande un Uber. Moi, je suis entrée dans la puterie pour subvenir aux besoins de ma môme et je suis devenue Alma, masseuse naturiste et sensuelle qui menait ses charmes pour 120 euros de l'heure. Je pensais déjà tout savoir et j'y ai tout appris. Les hommes, avec tout ce que leur désir révèle, les femmes, avec tout ce qu'elles ignorent, les ravages de la morale, le mythe de l'argent facile, l'hypocrisie d'une société biberonnée au porno. J'ai reçu vos maris, vos fils, vos patrons et vos potes. J'ai connu tous les âges, tous les milieux sociaux et toutes les religions. J'ai joué la farce de la professionnelle exerçant par passion. Et 800 clients plus tard, je n'en tire qu'une seule conclusion. Pute n'est pas un projet d'avenir. Bah, elle envoie du rêve. Effectivement, le bouquin, c'est ça. C'est vraiment. Elle te parle de tout ce qu'elle a appris. Et c'est vrai que c'est. Elle le dit à un moment que c'est qu'on voit tellement de choses qu'on c'est comme si on vieillissait très vite, qu'on apprenait très très vite plein de trucs sur l'humanité, et je la rejoins complètement là-dessus. C'est un peu l'impression que j'ai eue. Bah, d'ailleurs, il n'y aurait pas Cœur de Michto si j'avais pas l'impression que ça m'avait appris des trucs importants qu'il fallait transmettre. Et une des raisons pour lesquelles je me suis particulièrement dit j'ai envie de parler de ce livre, c'est pas juste parce que c'est plein d'anecdotes croustillantes. Bon, même moi, en ayant fait ce taf-là, il y a toujours un truc un peu. Il y a de la fascination, il y a du voyeurisme, vraiment un truc à avoir envie de savoir comment ça se passe, parce que bah oui, voilà, il se passe toujours des trucs croustillants. Mais c'était pas ça. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment puissant dans ce bouquin, c'est que ça parle de la question de mettre ses limites quand on est une femme. Et c'est particulièrement un truc qui m'a frappé moi dans ma carrière et que je retrouve chez cette nana. Quand on est une femme, on est souvent éduquée à avoir du mal à poser ses limites. Moi, je dis qu'on est dressée à avoir des difficultés à poser nos limites. Tout est fait dans ce qu'on nous enseigne, dans ce que les médias nous montrent, dans ce que les parents nous disent. Notre cerveau éprouve de l'inconfort violent à mettre ses limites. C'est le concept du dressage, hein. On va créer un signal parasite qui va modifier les comportements. Je pourrais dire à quel point on a été castrés. On a été rendu incapable, impuissante, incapable de, oui, impuissante, oui, c'est le mot, incapable de poser sa puissance, en fait. Donc, un, on sait pas le faire. Deux, ça nous coûte. Donc, moi, effectivement, comme Louise, cette carrière bizarre, elle m'a appris à poser des limites et j'en ai tiré des skills que je peux transmettre en les appliquant au domaine de la relation amoureuse, en disant, bah, moi, j'ai observé que tel endroit, tel endroit, tel endroit, quand on les posait à ce moment-là, la suite se passait très différemment. Ce métier de prostituée, en fait, il m'a donné une compétence de négociation et spécialisée dans la négociation entre guillemets amoureuse. Bref, donc Louise Brévin, elle en parle énormément dans son bouquin. Pas directement, en fait, elle raconte juste des anecdotes. Moi, en tant que collègue, quand je vois ces anecdotes, c'est ce que je vois en filigrane. C'est comment au démarrage, en fait, elle se sent pas de poser ses limites parce qu'elle sait pas. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui est terrible. Hein. Quand on commence dans ce taf, on sait pas le faire. On est comme n'importe quelle meuf lambda qui a été castrée, elle démarre de zéro, entre guillemets, comme n'importe quelle nana va avoir beaucoup de mal à poser ses limites et elle décrit comment ça se manifeste avec les clients, de pas être capable de poser ses limites. Et puis au fur et à mesure, les moments où elle prend des décisions, de dire non, ça, je peux plus laisser passer, et puis les moments où elle devient une queen absolue du posage de limites, il y a des moments, des punchlines. Moi, je trouve ça brillant. Quand on est à ce point nul à la base en posage de limites, mais nul parce que la société nous a contraintes à cette médiocrité dans la capacité à négocier. On est de piètres négociatrices, en fait, socialement. On fait tout pour qu'on ne soit pas capable de négocier. Et quand je vois des anecdotes, des moments où elle remballe des clients et où elle arrive à les cadrer, mais c'est. À un moment, j'ai marqué dans la marge masterclass de posage de limites, parce que c'est vraiment ça. Quand je lis ça, je me revois à mes débuts et je revois tout ce que la confrérie des putes m'a amené. C'est-à-dire que la confrérie des putes, j'ai énormément parlé dans les épisodes quand même à porter la grille tarifaire. Mais je dis aussi, c'est cette espèce d'entraide pour nous apprendre, nous coacher. À la base, les coachs, c'était les coachs sportifs. C'était le vieux gars qui avait une team d'ados et qui leur gueulait dessus de l'autre côté du terrain en disant « Ouais, il faut continuer comme ça, non machin, va plus par là », etc. Voilà, donc plus coach de ce côté-là. Je me sentais coachée par mes collègues dans la confrérie des putes et au fur et à mesure, en fait, je suis pas montée toute seule en compétence. C'est vraiment cette confrérie qui était là pour que les nouvelles se fassent pas défoncer, en fait. Pour dire, en fait, moi, j'ai passé 10 ans à apprendre à poser cette limite. Je te la donne, va plus vite, en fait. Alors, c'est un point que je trouve un peu étrange. J'arrive pas à trancher. Autant j'ai des indices où je me dis, je sais que cette meuf, on a bossé dans les mêmes conditions. Autant j'arrive pas à savoir si elle a fait partie de la confrérie. Je pense que oui. Il y a des indices qui me font penser qu'elle a fait partie de la confrérie des putes. Mais elle en parle jamais en tout cas. Elle parle jamais de sororité, elle parle jamais de son rapport au reste de la profession. Ne serait-ce que les mots qu'elle utilise, je pense qu'elle a été au contact de la confrérie des putes et que son skill à poser les limites a aussi été influencé par une sororité. Bah bon, bref. J'ai pas la réponse. Sauf si Louise Brévin vient me donner les infos. J'ai trop envie de discuter avec toi, Louise Brévin. Dis-moi qui tu es et je te dirai quel était mon pseudo dans la confrérie des putes et on pourra dire ah, mais oui, c'était toi. Mais bon, bref. Cette question de la sororité. Je n'en sais rien dans le bouquin, c'est pas abordé. C'est pas abordé, mais la question du posage de limites, je la trouve très très puissante et c'est pour ça que je trouve que c'est un livre à lire quand on est féministe, parce que dans ces anecdotes, il y a des moments effectivement où elle parle de ces posages de limites et c'est inspirant. Quand on n'a jamais été éduqué à poser ses limites, voir des modèles de femmes qui le font, c'est des choses qui peuvent nous permettre de l'acquérir. En fait, le cerveau, il y a une question de référentiel aussi. Une des manières de nous castrer, j'arrive pas à choisir. Est-ce que je dis le mot castrer, dresser, exciser mentalement? Va falloir que je décide. Bon, castré, je trouve que le rapport à la puissance est là. Donc bon, quand on parle d'impuissance, c'est un truc qu'on rapporte souvent au masculin, mais en tant que femme, on a de la puissance et la société nous a coupé de cette puissance. Bref, je crois qu'un des moyens que la société a de nous castrer, c'est de ne pas nous donner de représentation de femmes fortes. Donc lire des sujets sur des femmes fortes, sur des femmes qui concrètement mettent leurs limites, ça donne au cerveau la capacité d'imaginer qu'on pourrait le faire nous-mêmes. C'est un des outils, hein. C'est un des outils, c'est les modèles, les rôles modèles, c'est vraiment un outil pour changer à récupérer des skills sociaux qu'on n'a pas. Et alors du coup, pourquoi est-ce que être prostituée, c'est un apprentissage accéléré pour poser ses limites? Alors bon, je conseille pas, si vous manquez de capacité à poser vos limites, je sais pas le conseil, hein. Je trouve que c'est un enseignement un peu à la dure et qu'on peut obtenir les mêmes skills différemment, notamment en écoutant les putes. Bah en fait, il y a une histoire de conséquences. Dans la vraie vie, pas poser ses limites, ça a tout un tas de conséquences qui aboutit à plein de burn-out, à un épuisement constant, à des situations pas chouettes. Mais dans la prostitution, la conséquence réelle et immédiate, c'est que si on ne pose pas ses limites, comme ce qu'on vend, c'est de l'intimité dissociée, bah, c'est de se faire violer en fait. Si on ne pose pas ses limites, c'est que ce qui se passe pendant la prestation dépasse le cadre de ce qu'on était capable de dissocier, donc ce pour lequel on n'était pas vulnérable en fait, les zones où on a la façon dont on a dissocié et qu'on se retrouve bah, en plein dans la zone du vulnérable d'intime où on n'a pas envie que ce gars qu'on connaît pas rentre dedans. Donc ça va très vite quoi. Ça va très très vite et on se prend des trucs dans la gueule très très vite. C'est pour ça que je trouve que c'est un métier difficile aussi parce que même quand on sait bien poser ses limites, même quand on a appris à le faire, même quand on a de la bouteille, c'est quand même un truc un peu glissant, une zone Enfin, c'est facile en fait de se péter la gueule et de tomber dans la zone de l'intimité quand vous voulez seulement être dans l'intimité dissociée. Donc il y a un enjeu de survie de dire il faut très rapidement être capable de poser ses limites. On est fortement motivé par la menace qu'il y a de pas pouvoir de dire si là je pose pas ma limite, ce qui va se passer est trop grave. D'autant plus que les clients sont des mecs majoritairement dans l'immense majorité et que les mecs en fait eux ils ont été sociabilisés contrairement à nous à pas trop écouter les limites en fait c'est des C'est ce truc de pas mettre des limites aux gars, de les laisser faire des trucs qui sont pas acceptables socialement, enfin d'avoir des comportements antisociaux et de pas mettre de limites à ça, dire ok, c'est des garçons, c'est comme ça et qu'il n'y ait pas de conséquences, ça fait qu'on a en plus de ça en face de nous des clients qui sont toujours dans le dépassage de limites, même quand c'est des gars entre guillemets sympas en fait. Ils ont été sociabilisés à aller chercher toujours un peu plus loin en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est dans le bouquin, dans les notes que j'écris, je dis c'est un bootcamp. Le bootcamp, c'est un truc américain. En fait, on envoie des gamins faire une espèce de simulation de l'armée où ils vont se faire gueuler dessus pour avoir des compétences très rapidement. En fait, on va forcer la machine, on va aller à fond. Donc vraiment, je trouve que la prostitution, c'est un bootcamp de posage de limites. Parce qu'on nous apprend à la dure en fait. À très vite être capable de cadrer des trucs. Et on se rend compte au fur et à mesure de dire ah waouh, mais ça en fait dans la vraie vie je l'ai toujours accepté, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête en fait. Et il y a des transmissions de compétences du domaine pro au domaine perso. Je vais pas forcément parler de privilèges parce que quand on se retrouve dans la prostitution, généralement c'est qu'on n'a pas masse de privilèges. Je sais que moi j'ai dans le podcast, j'ai beaucoup parlé des raisons politiques pour lesquelles j'étais devenue prostituée. Il y avait des raisons d'oppression derrière aussi, enfin, que j'aborde moins. Mais je me retrouve aussi dans son bouquin. Elle explique qu'elle a commencé parce qu'elle avait une gamine et qu'elle s'est retrouvée en situation très très précaire. Avec une urgence, et que les options qu'elle avait n'étaient pas les mêmes que si elle n'avait pas eu de gamine, et je rejoins complètement son truc là. Je suis moi-même maman, et la précarité et l'urgence, etc., liées à mon gamin, m'ont fait prendre des décisions. Si j'avais pas eu de gamin, j'aurais sans doute choisi d'autres voies. Par exemple, j'aurais décidé de prendre le dessus sur le choix que j'avais d'être sexualisée ou non. Par exemple, peut-être en faisant du burlesque, j'en sais rien. Mais la question de la thune, il y avait aussi une question de nécessité. Donc quand je dis c'est un bootcamp où on apprend très vite, c'est un bootcamp où on apprend très vite pour peu qu'on ait peut-être un peu le caractère, enfin avoir la capacité, la résilience. De pas être détruite à la première fois où on n'a pas posé la limite où ça s'est mal passé et à dire ok next le prochain je le défonce. Je pense que le privilège entre guillemets dans la prostitution c'est le soutien, c'est le réseau, c'est un facteur protecteur d'être soutenu. La question du réseau social. Mais comme n'importe quel sujet en fait, hein, quand on est queer, avoir un réseau de soutien c'est un facteur protecteur. Quand on a de l'addiction, avoir un réseau de soutien c'est un facteur protecteur. Quand on est mère, avoir un réseau de soutien, c'est un facteur protecteur. La clé de l'humanité, c'est vraiment ça, hein. C'est le réseau de soutien. On n'est rien. On est des animaux sociaux. Sans les autres, on n'est rien. Donc, bref, quand on a moins de privilèges et qu'on se retrouve. Il y a une échelle de privilèges aussi chez les prostituées. C'est-à-dire qu'on a beau être en bas de l'échelle sociale, on n'est pas tout égal dans cette place. La question de la dissociation, elle vient autrement. C'est-à-dire que quand on n'a pas le réseau de soutien, qu'on n'a pas la capacité à dissocier, il y a toutes les questions de prise d'alcool, de drogue, etc. Pour survivre à ça, que je veux pas nier non plus, hein. La question de la dissociation, elle est soit choisie, soit subie, soit induite. Et ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que dans son bouquin, il y a une chronologie, elle raconte une histoire, elle raconte son histoire, et le premier truc, elle démarre en parlant de son, je pense que ça doit être quasiment son dernier client, en fait. Donc elle démarre à un moment où elle est bien installée dans le truc, où elle a ses repères, où elle a son process et où justement elle s'est très bien posé ses limites et c'est la première anecdote avec un client qui a raconté c'est un posage de limites comment elle recadre un gars qui clairement ne respecte pas du tout les règles et comment elle se sort de ce truc-là et immédiatement après elle redémarre de zéro avant d'être prostituée quand elle prend la décision et qu'elle a des premières expériences et des premières expériences où on voit qu'elle n'a pas du tout cette capacité à poser des limites qu'elle décrit au tout début du bouquin qui est le fruit de plusieurs années de carrière. Donc je vais finir ce premier épisode sur le bouquin de Louise Brévin avec cette citation où elle parle justement des gars qui mettent des heures et des heures à jouir et que ça c'est chiant quoi. Et donc elle écrit « Il m'a fallu me sentir sale plusieurs fois » avant de comprendre que la seule bonne attitude à avoir consistait à dire « Je regrette, mais nous avons dépassé l'heure d'une demi-heure, je pense que nous n'y arriverons pas. » Et ensuite, elle décrit comment les gars, ils râlent, ils essaient de négocier, de faire du chantage, etc., et qu'elle reste sur cette limite. C'est vraiment ça, poser une limite, c'est poser une action. C'est pas juste dire un truc, dire ok, stop, mais laisser le gars y aller quand même. Et voilà, je trouve vraiment que ce bouquin il est puissant là-dessus, et comme il y a beaucoup de trucs à raconter, je vais le faire en plusieurs épisodes. Voilà, fin du premier épisode sur le bouquin Pute n'est pas un projet d'avenir. Et si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à aller écouter les autres et à aller toi-même acheter Pute n'est pas un projet d'avenir, qui est un super bouquin, à la fois pour ses leçons féministes, mais aussi en tant que bouquin. Enfin, c'est très bien écrit, c'est très croustillant. Il y a beaucoup d'émotions, il y a de la rage, il y a des moments plus touchants. C'est vraiment un super bouquin. Si tu veux en savoir plus sur l'égalité amoureuse, j'ai une surprise pour toi. J'anime des ateliers sur ce sujet avec des outils pratiques, concrets et efficaces. Je t'offre l'accès gratuit à l'atelier. Obtenir plus en faisant moins, l'atelier avec tous les secrets de Michetonneuse pour obtenir l'égalité amoureuse. C'est une vidéo d'1 heure bourrée d'astuces pour mettre ton mec au taf sans avoir besoin de passer des heures à lui faire de la pédagogie. Pour recevoir cet atelier gratuit, rendez-vous sur mon site coeurdemichetot.com. Je suis Ellie, je t'envoie du love et te dis à bientôt.